Le yiddish, aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors,
on continue
toujours.
Tu sais toujours pas ce que veut dire Gödel-Bojtz.
Mais non, je pense que c'est un mot qu'il a inventé, mais dont je ne sais pas le sens, effectivement.
Il faudra qu'on fasse des recherches.
Oui, c'est vrai.
C'est le Kasri Lefke de Leib Rashkin.
Voilà, Leib Rashkin. Et donc, alors là, je voulais encore parler de ce livre, donc Les gens de Gödel-Bojtz, comme tu viens de le dire, de Leib Rashkin, fort bien traduit par Jean Spector. Mais je voulais le mettre en rapport avec un autre texte, qui est un texte de Kadia Molodowski. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur Kadia Molodowski, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui est une des rares femmes qui a écrit pendant de nombreuses années. Et là, nous parlons de la même période, c'est-à-dire de l'entre-deux-guerres en Pologne, où les mouvements sociaux commencent à être vraiment très importants. Hein. Donc, à partir de 1918-19, la Pologne est indépendante. La Pologne est recréée, hein, après avoir disparu pendant un certain nombre d'années. Donc, la Pologne réexiste. Donc, il y a un sentiment polonais nationaliste extrêmement fort. Mais il y a aussi, parallèlement, on peut dire, une prise de conscience de la condition ouvrière, des difficultés, du chômage. C'est aussi en rapport avec l'Union soviétique où, évidemment, comme vous le savez, les bolcheviks ont pris le pouvoir et donc où la classe ouvrière est mise en avant, même si on sait très bien que dans la réalité, c'est une utopie qui va vite se terminer très mal. Mais disons, il y a toutes ces idées qui commencent à venir. Et d'ailleurs, il y a de nombreux ouvriers polonais qui se retrouvent en prison, hein, dans une des prisons qui s'appelle par exemple la prison Paviak, qui est très célèbre. Et donc, et c'est une des raisons pour lesquelles ils partent aussi à l'étranger. Hein, c'est-à-dire que finalement, les militants socialistes, communistes, bundistes vont avoir une vie très difficile en Pologne, se retrouvent, comme je viens de dire, souvent en prison. Et donc, ils fuient aussi souvent à l'étranger, où ils ne sont pas toujours très bien accueillis. Le poème Freidke est intéressant. Il présente une femme qui n'est pas vraiment une militante. Et donc, elle est à Varsovie pendant que son mari, lui, est à Paris. Et finalement, la vie n'est pas plus agréable, on peut dire, à Varsovie qu'à Paris ou à Paris qu'à Varsovie. Finalement, la condition ouvrière, les contraintes, et puis aussi à Paris, les étrangers sont vus de travers, ils sont surveillés, ils sont fliqués. Elle a une vision assez noire, mais le tout quand même sur un ton, sur un rythme, c'est un poème, donc il y a un côté quand même assez léger. Alors là, je vais présenter donc une partie où l'on parle de grève. Donc c'est l'héroïne, Freidke, qui travaille dans une fabrique, dans une usine de textile, hein, ce qui était le sort de la grande majorité des ouvrières. Là, nous sommes à Varsovie. Et il y a une femme militante qui s'appelle Scheindl Canarey, donc Scheindl le Canari, qui va mener la bataille et qui va mener la grève, en particulier parce que une des ouvrières qui est tuberculeuse et qui tousse a été renvoyée par le patron qui s'appelle Pchenitsa. Et donc, les ouvrières sont furieuses et vont faire la grève. Hein. Voilà, donc la partie qui s'appelle Grève, qui a été traduite par moi, mais aussi par Joël Perelberg-Ouriès. Nous avons travaillé ensemble sur cette traduction. Okay. Oui, on a fait ça pendant un séminaire de quasiment une année. Voilà, donc, comme des chevaux après une rude bataille, alignés en silence, ainsi se tiennent les machines. La dernière course des fines aiguilles est bloquée. Les pédales attendent un pied pour s'élancer. Les couturières aux yeux fébriles enveloppent épaules enveloppées dans leur châle. La porte en attente, la fenêtre aux aguets. La journée est inquiétante, irritante, grisâtre. Schindel Canarey parle à voix haute. La pâleur de son visage est poignante et la noirceur de son béret. Il faut laisser une garde pour la nuit. Le Pchenitsa avec ses yeux de travers pourrait inventer quelque chose. Pchenitsa n'est pas descendu dans la cave. Il tourne en rond dans la cour et sa blouse s'agite comme un drapeau. Comme s'il était en train de faire des calculs dans sa tête et comme s'il était occupé à faire quelque chose. De bonne heure, le lendemain matin, Schindel Canarey a trouvé la cave fermée. Un billet blanc brille. Do Venayensa, ça veut dire en polonais « alloué ». Pchenitsa a délocalisé son atelier à Lodz. Et entre-temps, il a conduit sa femme à Nalen Toshov. Oui, Nalen Toshov, c'est un lieu de villégiature. Dès les premières lueurs du jour est arrivée une voiture en attente et embarquant les corps des machines à travers les vitres où les mouches bourdonnent et rêvassent. Schindel Canary a vu le socle des machines poussière et moisissure. Schindel Canary a observé un moment, un demi-sourire est apparu sur ses lèvres, une demi-grimace. Voyez comme notre chère Pchenitsa dérobe nos machines. Elle a redressé son béret d'un coup de tête, saisi une pince Monseigneur, et bien qu'on n'écrive rien de la sorte dans des poèmes convenables, eh bien elle a fait comme ça, Schindel Canary. Elle a donné un coup de haut en bas sur la serrure. Les couturières se sont précipitées. Elle a ouvert la porte d'un coup de pied. Elle est entrée à pas simples et mesurés dans la cave, comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle s'est installée devant sa machine. Ses doigts agiles et fins ont manipulé les pédales. Elle les a démontées avec beaucoup de soin, comme si elle leur parlait, rectifiant le compte ou faisant une facture. Et puis lentement, sans hâte, elle a démonté la pédale de la machine de Pessel. Mmh. Donc Pessel est cette ouvrière qui a été renvoyée. Ensuite, celle de Sarah la blonde. Freika a démonté toute seule sa machine complètement, plus vite. Et elles sont toutes deux parties de la cave. Schindel Canary a facilement emporté les 12 pédales à pas de loup. Le tablafard. Ses yeux lançaient des éclairs bleuâtres. Elle est sortie dans la cour. Les couturières étaient encore regroupées, jetant des regards fébriles dans toutes les directions. Pendant ce temps, Pchenitsa, avec ses yeux de travers, errait tout autour de la cour. Sa blouse grise voletait comme une aile, comme un ruban. Il va la faire arrêter. On n'a jamais vu une telle chose. Il va la faire déporter. 3 jours plus tard, Schindel Canary a disparu avec 7 gulden et un crouton de pain noir, franchissant à pied la frontière à Katowice. Voilà, donc vous voyez ces femmes qui ne se laissent pas faire, c'est-à-dire, bon, elles ne se laissent pas faire. Lui, il a enlevé les têtes des machines et donc elles enlèvent le reste, le corps, hein, pour que les machines soient inutilisables, bien sûr. Lui, il est absolument furieux, il veut la mettre en prison, ce qui est tout à fait possible. Hein. C'est une menace qui n'est pas du tout une menace en l'air. Et donc Schindel, qui a bien compris la menace, eh bien, elle part. Hein. Et Freike ne va pas être inquiétée, bon, parce qu'elle n'a pas participé directement, donc elle va trouver un autre travail dont on nous parle d'autres, un autre moment dans ce poème, cette espèce d'épopée finalement.
Ouais, c'est beaucoup plus long que ça.
Oui, oui, ça c'est un chant. Hein, il y a une douzaine de chants, donc on voit, au début chez Freike qui vend des œufs. Et donc, elle a aussi des relations difficiles avec la personne qui lui procure les œufs, le crémier qui lui procure les œufs, à qui elle doit évidemment en payer. Et en fait, cette histoire dans l'atelier, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire, 2 ans avant, elle a travaillé dans cet atelier, mais l'atelier a fermé, comme vous avez bien vu, il a été délocalisé. Et donc, elle a dû trouver un autre travail. Donc, elle gagne sa vie péniblement à Varsovie. Et il y a aussi des chants, ça s'appelle des chants, hein, qui se passent à Paris, où vit son mari, qui s'appelle Shmuel Horowitz, et qui lui écrit des lettres, ce qui correspond à la situation de Kadia Molodowski. Hein. Elle vivait à Varsovie, et son mari vivait effectivement à Paris. Là, il y a une petite fille qui s'appelle Reizele, qui est leur fille, qui vit avec Freidke, alors que Kadia Molodowski n'a pas eu d'enfant. Et ensuite, ils sont partis tous les deux, en 1935, ils sont partis aux États-Unis. Hein, alors que, bon, Friedkin ne part pas aux États-Unis. C'est un travail très noir, vraiment, de la vie des ouvriers, surtout. Mmh. Avec le seul espoir, c'est peut-être le Birobidjan. Hein. Le Birobidjan est présenté un peu comme un rêve, où il se passe des choses formidables, où les ours aident les gens à construire. Voilà, donc c'est la seule ouverture, mais une ouverture qui reste lointaine, hein, puisque personne n'y va dans ce Birobidjan. Et donc, oui, c'est un poème quand même assez noir, assez réaliste, mais qui est très, très, très beau, hein, vraiment très, 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 très beau à lire. Voilà, on va l'illustrer
donc,
par une musique.
Une musique donc, sur le chômage, hein, c'est la Arbeitsloser March. C'est sur un texte de Mordechai Göbertig. On l'avait utilisé dans le spectacle qu'on a monté sur Göbertig il y a déjà de longues années, 2006, je dirais. Le temps passe. Et voilà, c'est très joliment chanté. On attend plutôt une voix d'homme là-dessus, mais on le voit bien, les femmes travaillaient aussi et étaient aussi au chômage, avaient aussi les pires difficultés. Donc là, c'est chanté par cette très belle chanteuse yiddish belge, Zahava Zeewald. C'est un disque que j'ai depuis très longtemps. Il doit dater de, je dirais, 1997-1998. Je ne sais pas ce que Zahava Zeewald fait aujourd'hui et si elle chante encore. Mais ce disque est vraiment formidable. C'est Work and Revolution, sur le travail et la révolution. Donc, Arbeitsloser March, sur un texte de Mordechai Göbertig, et la musique aussi, puisqu'on le sait qu'il écrivait et la musique et les paroles, chanté par Zahava Zeewald.
Eins, zwei, drei, vier, Arbeitslose seinen mir. Nicht gehört Chadoshim lang, ihr Fabrik dem Hammerklang. Fliegen keine, kalt vergessen, s'nimm der Javer sich schon fressen. Gehen wir herum in Gas, wie die Gewehr im Post und Pass, wie die Gewehr im Post und Pass. Ein, zwei, drei, vier, Arbeitslose seinen mir. Ohne Beget, ohne Heim, unser Bett ist hart und lehm. Hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Bissen. Wasser widig wir im Wein, gießen wir in sich herein, gießen wir in sich herein. Ein, zwei, drei, vier, Arbeitslose seinen mir. Jahrelang gearbeitet schwer und geschummelt mehr und mehr. Heißer Schlösser, Städte und Länder, Pfarrer, Hefele, Verschwender. Unser Leum, der Fall ist was? Hungerneut und arbeitslos. Hungerneut und arbeitslos. Ein, zwei, drei, vier, hat er so marschieren wir. Arbeitslose tritt nach tritt und wir singen sich ein Lied. Von der Land auf Welt alleine, wo es leben Menschen freie. Arbeitslos ist kein Schumhand in dem neuen freien Land. In dem neuen freien Land.
Oui, donc c'est l'époque des grèves, hein, voilà, donc c'est ça que je voulais présenter. Donc là, nous avons, donc là maintenant, nous revenons au livre Les gens de Gödel-Bogyts, où nous avons là une grève dans une tannerie, hein, donc cette tannerie qui est présente sur tout le livre, où travaille donc le frère de Simon Schiffritz, Nossen Schiffritz, qui est un ouvrier, mais un ouvrier extrêmement conscient, extrêmement politisé, et qui fait donc partie d'un syndicat. Donc c'est là aussi le moment où les gens se syndicalisent. Et les syndicats obtiennent quand même certaines choses, même si c'est parfois limité, hein. Voilà, donc là, je vais vous lire maintenant un passage de ce livre.
Une résolution fut adoptée à l'unanimité. Exiger du patron qu'il paie immédiatement tous les salaires en retard, toutes les heures supplémentaires et qu'il garantisse une compensation appropriée. On lui fixa comme limite le lendemain matin à 10 heures. Si d'ici là, il n'avait pas donné de réponse positive, la grève éclaterait aussitôt. Ça a vraiment des accents actuels, hein, avec ce qui se passe. L'initiative de présenter les revendications et de conduire la grève fut remise aux mains du syndicat professionnel qui remplit sa tâche malgré les conditions difficiles dans lesquelles il devait l'entreprendre. L'hypothèse de Nossen, selon laquelle Meyerbach ne faisait que ruser en prétendant qu'il allait fermer la fabrique, se révéla fausse. Au contraire, il se confirma que depuis 2 semaines, aucune peau brute n'était entrée. On n'avait fait que presser les ouvriers de terminer celle qui était là. On racontait déjà en ville que Meyerbach avait racheté une grosse tannerie à Bialystok, une fabrique équipée de machines les plus modernes. Au vu de la situation calamiteuse, le syndicat présenta des revendications modérées. Paiement de tous les salaires en retard en espèces, garantie de compensation appropriée, remboursement des prélèvements pratiqués illégalement sur les sommes dues aux travailleurs, versement de ces sommes à la caisse maladie et aux assurances sociales afin que les travailleurs licenciés puissent bénéficier de l'aide aux chômeurs. Nossen et Salmen allèrent présenter ces revendications. Issa Meyerbach était en train de déjeuner. Ils attendirent. Après le déjeuner, il les fit entrer dans son bureau. Il était repu et détendu. « Quel bon vent vous amène ?» Ils lui tendirent le papier. Il ne fit qui jetait un coup d'œil, puis le posa sur son bureau. « Qu'est-ce que vous et votre syndicat avez à faire avec moi ? » demanda-t-il sans colère. « Je vous dois quelque chose ? J'ai une dette envers vous ?»« Nous sommes venus au nom des travailleurs, » répondit Nossen. « Alors que les travailleurs qui me réclament quelque chose viennent eux-mêmes, » continua le fabricant encore calmement, avec une colère continue. « À toi, Nossen, je te dois le montant de 80 pièces de cuir de Russie, soit 50 zloty. » « Alors prends-les et au revoir. » Il posa 3 billets sur la table. « Quant au reste, cela ne te concerne pas. Qu'avez-vous à voir avec moi ?» La délégation attendait. Ils avaient l'impression que le fabricant n'avait pas tout dit. Issa Meyerbach tendit les 3 billets à Nossen. « Tiens, prends. » Nossen lui rejeta les petits morceaux de papier. « Vous me paierez en même temps que tous les autres, dans le bureau de la fabrique. Nous sommes venus revendiquer au nom du syndicat, au nom des travailleurs. Répondez, oui ou non ?» Il ne répondit pas immédiatement. Ses petits yeux étincelèrent de fureur. Les poches de graisse de son visage s'injectèrent de sang. Mais il parvint à se retenir et se tourna vers Salmen. « S'il vous plaît, jeune homme, passez à côté 1 minute. Je dois parler avec Schiffritz. »« Ne bouge pas, » dit Nossen à Salmen, puis à Meyerbach. « Chez nous, il n'y a pas de secret. Je n'ai aucun secret à partager avec vous. Vous pouvez tout dire ouvertement. » Meyerbach s'appuya de ses mains sur son bureau, regarda Nossen droit dans les yeux, réfléchit un instant et dit « Si c'est ouvertement, allons-y. Pourquoi moi, je vous le demande, je ne viens pas me mêler de votre syndicat et de vos affaires ? Pourquoi n'est-ce pas mon affaire ? Est-ce que c'est votre bon sens d'affaires si je paye mes ouvriers ou pas ? Si je cotise à la caisse maladie ou pas ? Qu'est-ce que vous avez à voir dans mes affaires ?» Le fabricant en tremblait de colère. Nossen le regarda bien en face. « Pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, je vous avertis, bouclez-la si vous ne voulez pas être bouclé. » Nossen blêmit, ne répondit rien. Salmen fit semblant d'éclater de rire. « Ah ! En prison ! Pan Meyerbach, ça c'est le mot pour dire monsieur, n'est-ce pas, en polonais, nous menace de la tôle. On verra bien qui va y envoyer l'autre. »
Qu'est-ce que t'as dit ? Voilà ce que j'ai dit. On verra bien qui va y envoyer l'autre. Puis, pointant du doigt, « Ne vous croyez pas si fortiche, Pani Meyerbach. » C'est le féminin, non ?
Panier, je crois, parce que c'est un... Ou c'est Pani, c'est marqué ? Panier, parce qu'il y a des fois des vocatifs, etc. Il y a toutes sortes de formes.
De vocatif, oui, comme en latin. Instinctivement, Meyerbach fourra précipitamment sa main droite dans la poche de son pantalon. Zalman éclata à nouveau de rire. « Ne craignez rien, Pani Meyerbach. On ne porte pas de bombe. Vous pouvez nous fouiller. Je vous dis juste, ne vous croyez pas si fortiche, Pani Meyerbach. Au revoir, Pani Meyerbach. »
Voilà, donc, le lendemain, la grève fut déclarée. Au cours de la grève, le syndicat vérifia également la situation juridique des ouvriers licenciés. Quantité de malversations commises par le fabricant sans scrupules furent découvertes. Plus de la moitié des travailleurs n'étaient pas inscrits à la caisse maladie. Issar Meyerbach les avait pris à part, un par un, et leur avait dit « Si tu veux travailler, il faut renoncer à la caisse maladie. Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres. » Dans d'autres cas, on avait fait les inscriptions à la caisse maladie, mais la totalité des cotisations avait été déduite des salaires des ouvriers. Voilà, donc il y a toutes sortes de problèmes comme cela qui fait que les gens se retrouvent vraiment dans une situation extrêmement difficile. Pendant ce temps, les événements se précipitaient à la fabrique. Se répandit parmi les ouvriers en grève une rumeur qui disait que Meyerbach allait vider la fabrique de toute la marchandise, même non finie. La rumeur s'avéra fondée. Par une nuit pluvieuse, au moment où les travailleurs en grève s'y attendaient le moins, de lourds fourgons venus de la grande ville arrivèrent devant les bâtiments de la fabrique. Quelqu'un frappa au portail. Il semble que le gardien avait été adéquatement préparé et informé, car dès qu'il entendit le premier coup frappé, il arriva avec son trousseau de clés, ouvrit les battants. Silencieusement, comme on exécute un gros cambriolage, on sortit des cuves les peaux brutes ou à demi finies, on emballa dans des caisses les balles de cuir à semelles qui crissaient et on les descendit dans la cour. Plus silencieusement encore, en retenant sa respiration, on chargea le tout dans des fourgons et on fit prendre la route dans l'obscurité de la nuit. Quand, avant l'aube, les ouvriers se rendirent compte de ce qui s'était passé, il ne restait dans la fabrique plus une seule peau et sur la route, plus trace des fourgons. Voilà comment se termine tristement cette histoire de grève dans cette tannerie.
Alors, on va illustrer, enfin, si on peut dire, c'est un chant anti-tsariste qui est intéressant du point de vue du vocabulaire parce qu'il y a pas mal de mots en russe. Et c'est pour dire que le tsar, pourvu que le tsar Nicolas soit bientôt Hinterert,
mais oui.
Enterré à 20 pieds sous terre. Donc ça s'appelle In Alle Gassen. C'est le New Yiddish Chorale et le Workman's Circle Chorus de New York. Et la voix soliste, c'est cette chère Adrienne Cooper, et hélas disparue déjà depuis quelques années, très prématurément, merveilleuse chanteuse. Donc voilà, ça s'appelle In Alle Gassen et c'est couplé avec une autre chanson, Hey Hey Daloy Polizei. Et ce titre, il est en russe.
Voilà, ben on vous dit déjà Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Oui, et merci Thomas.
Und
Schwester, lass mich sich nicht irzen, lass mich nicht gleichle, die jagerlich verkürzen.
Hey, hey, das war die Polizei, das war die
A Wegele mit Mist, Heint ist er geworden, a Kapitalist.
Hey, hey, Kartoi, Polizei, Kartoi, Sammel, Schlag, jetzt, passe. Hey, hey, Kartoi, Polizei, Kartoi, Sammel, Schlag, jetzt, passe.
Brüder und Schwester, Lomme gehen zusammen, Lomme Nikolaikele bei Graben mit der Mammen.
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.